sur RFI.
Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Seconde partie.
Et je suis toujours en compagnie de Jean-Pierre Clairaut et Paul Mathias, tous deux professeurs de philosophie, le premier à Rouen, le second à Paris, pour évoquer la vaste et passionnante question des murs et frontières de la chute du mur de Berlin au mur du 21e siècle. Tel est en effet le sujet développé par la revue Cité dans son numéro 31. Le 9 novembre 1989, vous vous en souvenez, le mur de Berlin s'effondrait sous les applaudissements de la communauté mondiale rêvant d'une fin de l'histoire, un monde ouvert et sans frontières. Moins de 20 ans après cet événement, le Congrès des États-Unis d'Amérique votait le 15 décembre 2005 la loi 6061 autorisant la construction d'un mur long de plus de 1000 km pour protéger sa frontière avec le Mexique. Entre-temps, de multiples murs ont fleuri dans le monde qu'on dit de plus en plus globalisé. Le plus emblématique étant certainement, Jean-Pierre Clairaut nous l'a rappelé, celui édifié à la frontière des territoires palestiniens. Mais on peut également citer à Bagdad le mur de protection érigée depuis le 10 avril 2007 par l'armée américaine autour du quartier sunnite d'Adamia, enclavé dans l'est de la ville à majorité chiite. On songe également à cette frontière étanche avec la Corée du Nord, envisagée par la Chine pour contenir les exilés coréens qui cherchent à fuir la famine et la terreur du régime de Kim Jong-il. Et l'Europe n'est pas en reste avec, dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, la clôture des accès pour contenir les assaillants désespérés venus d'Afrique noire. Bref, la tentation du mur, si elle n'est pas nouvelle, semble la chose la mieux partagée du monde. Et on peut la condamner, d'aucuns d'ailleurs ne s'en privent pas, mais rappelle Yves-Charles Zarka, le directeur de la revue Cité, si la frontière est ce qui sépare ou démarque, elle est aussi ce qui permet la reconnaissance et la rencontre de l'autre. Autrement dit, la frontière n'a pas seulement un sens négatif, mais aussi un sens positif. Par conséquent, ce qu'il faut combattre, ce sont les murs, mais pas les frontières. Le meilleur antidote au mur, ajoute Yves-Charles Zarka, c'est la reconnaissance mutuelle de la différence de soi et de l'autre à travers la frontière qui n'est précisément pas un mur étanche, mais un lieu de reconnaissance et de passage. Alors Paul Mathias, je vais me tourner vers vous, puisque vous évoquiez déjà cette question dans la première partie de l'émission, et c'est tout à fait passionnant. Supprimer les frontières, c'est peut-être un rêve, mais n'est-ce pas un rêve insensé? Parce que une frontière, c'est dire qu'il y a un autre différent que moi. La frontière me donne l'occasion de travailler à une reconnaissance et à une acceptation mutuelle.
Quand vous dites c'est un rêve insensé, moi je le comprends non pas comme c'est un rêve complètement fou, mais je le comprends comme c'est un rêve véritablement dénué de sens. Et j'abonde dans votre sens. Les frontières et en fait l'expérience de l'altérité sont quelque chose, je crois, de constitutif de ce que nous sommes. Alors, pour ne pas parler de frontières entre la France et l'Allemagne, la France et l'Italie, la France et l'Espagne, la Grèce et la Yougoslavie, etc., enfin l'ex-Yougoslavie, pardonnez-moi, pour ne pas parler de ces frontières-là, mais pour parler tout simplement de la frontière qui consiste à passer de l'ignorance au savoir, qui consiste à passer de l'incompétence à la capacité à traiter une opération de mathématiques, qui consiste à apprendre le latin, le grec, l'anglais, l'allemand ou l'italien. Ce sont les frontières qui nous constituent, c'est-à-dire que c'est le voyage vers une altérité et c'est se mesurer à cette altérité et c'est se mettre en question à la lumière de cette altérité, c'est aussi absorber cette altérité, c'est se déployer dans cette altérité qui fait que nous sommes ce que nous sommes.
Oui, parce que dans l'idée de frontière, l'idée de transgression, évidemment, ça veut dire passer, franchir, traverser, donc aller voir ailleurs, ou aller vivre ailleurs.
Aller vivre ailleurs. Alors, j'ai vécu ailleurs. J'ai vécu ailleurs, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu un petit peu en Grèce. Vivre ailleurs et quelque chose qui est très constitutif chez moi, si je puis dire. Et cet ailleurs, eh bien, c'est, comment dire, c'est un ailleurs, enfin, pour moi, ça a toujours été un ailleurs très contemplatif. Je n'ai pas exercé des professions en dehors de la France. J'ai donc été plus observateur que membre d'une communauté autre que la mienne. Et c'est cette observation qui a été pour moi et qui continue d'être pour moi l'occasion de mes voyages. C'est cette observation qui est pour moi une sorte d'école permanente. L'altérité est pour moi une école permanente. Voilà, je résumerai les choses très simplement comme
ça. Jean-Pierre Clairaut.
D'ailleurs, dès que vous essayez de constituer de manière quasiment interne un certain nombre de valeurs, il est clair que vous fabriquez toujours une sorte de frontière avec l'autre, qui n'est pas nécessairement négative. Qui n'a pas nécessairement un sens de mur, d'une certaine façon. Le mur, vous le disiez bien, c'est l'expérience d'une conduite de l'espace par laquelle un groupe, une nation, un État, veut finalement se protéger contre un autre groupe, une autre nation ou un autre État.
Justement, Jean-Pierre Clairaut, quand j'étais jeune à l'école, on m'a enseigné, comme à vous sans doute, que les frontières étaient pour partie naturelles. Alors, des frontières dont le tracé suivait les obstacles naturels, par exemple les montagnes et les fleuves. Et, qu'en dites-vous aujourd'hui ? Est-ce que la nature n'a pas bon dos ? Est-ce qu'elle n'est pas appelée au secours pour masquer au fond des rapports de force ?
Oui, bien sûr. Mais curieusement, on voit les géographes toujours un peu hésiter sur ce point-là. J'en ai interrogé quelques-uns, je pense à Yves Lacoste en particulier. Eh bien, de temps à autre, les géographes sont parfaitement tentés de dire qu'il existe des frontières naturelles. Par exemple, un littoral, c'est bien une espèce de frontière, une sorte de frontière naturelle. Un fleuve peut bien faire quelque chose comme une frontière naturelle. Mais il est parfaitement clair que c'est pas ça qui fait véritablement la frontière. Ce qui fait la frontière, c'est quelque chose qui est symbolique. C'est le fait de dire que nous sommes sur une terre où nous allons avoir des pratiques communautaires, voter, avoir telle ou telle langue, partager telle ou telle religion ou pas, ou telle mœur. Bon, mais il est clair que le symbolique, d'une certaine façon, le linguistique l'emporte très largement sur le naturel. Et c'est évidemment pas le naturel qui fabrique la frontière. Alors, même si on en a l'illusion.
Alors, Jean-Pierre Clairaut, comme vous avez dirigé ce numéro, je voudrais que vous nous disiez rapidement quelques mots sur quelques articles.
Oui,
on
ne
peut pas tous les citer.
Non, on ne peut pas tous les citer.
Je voudrais, par exemple, vous poser d'abord une question sur l'article d'Odette Louiset, parce que c'est tout à fait passionnant. Une frontière est censée, elle nous l'explique, dire l'étranger, et par la même occasion les étrangers. Oui. Mais les étrangers, aujourd'hui, ne sont pas tous de l'autre côté, et ceci vaut pour un pays comme la France ou pour l'Inde. Odette Louiset s'intéresse notamment
au phénomène des castes,
aux frontières urbaines qui sont majeures en Inde.
Oui, en montrant justement comment les frontières sont relativement brouillées d'une certaine façon aujourd'hui entre la ville et la campagne. Mais ce qui m'a semblé intéressant effectivement dans cet article d'Odette Louiset, c'est qu'elle pose à travers l'Inde peut-être un problème assez général. C'est à partir des frontières entre de la ville et de la campagne, voire entre deux États, finalement, qu'est-ce qui se trouve projeté ? C'est-à-dire que en gros, son idée, c'est de ne pas croire trop à la frontière, qui en particulier, quand il s'agit de l'Inde, est extrêmement brouillée. Mais c'est quel est le phénomène qui se trouve en quelque sorte projeté dans ce que l'on imagine être quelque chose comme une frontière. C'est-à-dire, de quoi les frontières sont-elles les projections, d'une certaine manière. Alors chacun sait bien que les frontières n'existent pas en soi, qu'elles n'ont pas leur raison en elles-mêmes, mais du coup, le problème qui est constamment posé, c'est de quoi sont-elles les projections, Et on trouve effectivement cette réflexion, non seulement chez Odette Louiset, mais par exemple aussi dans l'article de Philippe Fontaine. Au fond, c'est exactement le problème qu'il pose, en ayant peut-être une réponse qui ne serait pas forcément la mienne, mais en montrant qu'il y a un jeu de passion, d'une certaine façon, qui se projette sous la forme de frontières.
Alors justement, vous parlez de passion, un très bon article sur la question des frontières de l'Europe, évidemment on pouvait s'y attendre, avec bien entendu en arrière-fond la question de l'entrée ou non de la Turquie, et ce que fait remarquer l'auteur, c'est un portugais, je crois, comment cette question est formulée. On dirait en effet que la question par où passent les frontières de l'Europe l'a emporté sur une autre, quelles sont les frontières constitutives constitutive de l'Europe.
Oui, vous avez été très sensible, effectivement, à une sorte d'inversion du problème tel qu'il est posé traditionnellement. En très gros, traditionnellement, on se demande, bon, étant donné l'Europe, où sont ses frontières, d'une manière extrêmement brutale et extrêmement réaliste, si j'ose dire. Or, on peut inverser le problème, et c'est ce qu'il fait très très finement, en disant, bien, plutôt, quelles sont les limites de la construction européenne. C'est-à-dire, quelles sont les frontières constitutives, d'une certaine façon, de l'Europe.
Oui, parce que la question, au fond, qui me semble poser derrière tout ça, c'est là que je voudrais vous interroger, peut-être entendre Paul Mathias me répondre, c'est la frontière, c'est une réalité géographique ou c'est une boîte à outils? Parce que la politique de l'Union européenne par exemple, est-elle à chercher dans sa géographie, qui serait à ce moment-là un savoir, ou la géographie de l'Union réside-t-elle dans sa politique? Et à ce moment-là, ça deviendrait une décision.
Voilà, tout à fait. Et donc là, vous posez très bien le problème, c'est tout à fait de cette façon-là qu'Una Martins pose effectivement le problème.
Mathias ?
Je vous répondrai par une sorte de référence historique. Rappelez-vous que il y a 2000-2500 ans, il y avait une cité qui se nommait Thèbes, une autre qui se nommait Corinthe, une autre Athènes, une autre Sparte, et les unes et les autres étaient étrangères les unes aux autres. Si aujourd'hui vous prenez votre automobile et que vous allez d'Athènes à Thèbes et de Thèbes à Sparte, ça vous prendra quelques heures, vous n'aurez pas le sentiment de passer d'un pays à un autre, vous n'aurez pas le sentiment de franchir des frontières. Je crois qu'il y a 2000-2500 ans, c'était comme traverser l'Atlantique pour un Athénien, pour un Spartiate, pour un Corinthien, etc. Alors vous posez la question, est-ce que c'est la géographie qui fait les frontières? Est-ce que c'est le fantasme ou est-ce que ce sont, je ne sais pas, est-ce que c'est le symbolique qui fait les frontières? Quoi qu'en disent les géographes, et sachant que les Alpes séparent en effet la France de l'Italie, ou que le Rhin sépare en effet, au moins en partie, la France de l'Allemagne, j'ai quand même le sentiment que les frontières sont affaires de symboles, affaires de culture, affaires de langue. On ne parlait pas tout à fait le même grec, si je me rappelle bien, à Athènes et à Sparte ou à Corinthe, pas tout à fait dans les idiomes. Et les tournures.
Mais la rhétorique du sans frontières, qui est la rhétorique actuelle, qui est celle qu'on dirait presque politiquement correcte, on voit bien à travers quelques images, je dirais presque emblématiques, médiatisées à outrance, médecins sans frontières. Enfin bon, la rhétorique du sans frontières, est-ce que ça n'est pas au fond l'enfant de l'ultralibéralisme?
Jean-Pierre Perrault. Oui, c'est probable. Moi, ce que je vois quand même dans ce sans frontières, c'est que c'est quand même très souvent lié à des attitudes qui, en réalité, refuse assez souvent l'autre. Enfin, on a, pendant une campagne électorale, parlé de Kercher. Bon, et ce Kercher, d'une certaine façon, c'est une espèce de symbole de transformer l'autre en une espèce de mur, d'une certaine façon. Il me semble qu'il y a, certes, dans le libéralisme, un mouvement qui consiste à dépasser les frontières et peut-être relativement positivement, mais il y a aussi, me semble-t-il, en ce moment, un mouvement sécuritaire qui traverse à l'envers ce mouvement.
Alors justement, puisque vous évoquez ce climat sécuritaire, que pensez-vous par exemple de la biométrie? Alors la biométrie, elle raccorde des données comme l'empreinte digitale, l'iris, la voix, etc. à des banques de données informatiques, et elle permet au fond ce que les mécanismes traditionnels du contrôle de la frontière rendaient impossible, à savoir une anticipation du risque en amont de la frontière.
Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que la frontière, encore une fois, n'a pas besoin de réalité, si je dirais, peut très bien fonctionner sur le mode de savoir très, très sophistiqué. Ce qui est même étonnant, c'est précisément comment il se fait qu'on construise aujourd'hui des murs si épais, alors que d'une certaine façon, on sait peut-être faire d'une certaine façon mieux sur le plan technique.
Paul Mathias ?
Il y a une coïncidence très étonnante entre la rhétorique de la dissolution des frontières, qui est la rhétorique de l'Internet, de l'omniprésence de la communication, de l'identité, au fond, du Californien, du Parisien, du Londonien, de l'homme ou de la femme de Singapour, de Tokyo, etc. Il y a une identité de ces opérateurs communicationnels, donc une véritable dissolution, si l'on veut commerciale, si l'on veut ludique, si l'on veut de quelque nature que ce soit, des frontières. Et en même temps qu'il y a une telle dissolution, il y a incontestablement une puissance démultipliée, exponentielle, de surveillance, d'observation, une puissance de regard sur ces communications, sur ces pratiques, sur ces usages, sur ces pensées, sur ces discours. Alors une puissance exponentielle de regard, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que toutes ces translations communicationnelles, toute cette temporalité diffuse qui va de Sydney à Londres, de Londres à Chicago, de Chicago à Buenos Aires, etc., etc. Tout ça est identifié de part en part, tout ça est numérisé, tout ça est rattaché à une adresse. Cette adresse, je reprends mon camarade Clairaut, ce qu'il disait tout à l'heure, cette adresse en fait est localisée. Nos adresses IP sont des adresses qui sont identifiables géographiquement autant que numériquement. Tout cela donc donne aussi l'idée, la représentation d'une omnisurveillance au moins potentielle. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui regarde sur son écran ce que fait l'humanité tout entière. Il n'y a pas de Dieu, Dieu merci, derrière cette affaire. Mais potentiellement, n'importe quelle transaction communicationnelle est surveillable, est identifiable. Et ça va en coïncidence avec l'idée de la dissolution des frontières. Là où il n'y a plus de frontières, là, il y a une immense surveillance.
Jean-Pierre Clairaut, Paul Mathias, nombreux sont ceux de par le monde qui sont obsédés par la frontière, ne serait-ce parce qu'ils ne peuvent pas la franchir, et quand ils la franchissent parfois, voire même souvent, très souvent, à leur corps défendant. Et pourtant, on aurait envie de dire que la meilleure façon de penser à la frontière, ça serait de ne pas trop y penser, de ne pas être obsédé par son existence.
Oui, je pense que vous avez raison. Le problème qui est posé, au fond, par ce numéro, mais bien au-delà, par cette notion de frontière, c'est celle d'intégration d'espaces, hein, dont nous avons dit qu'ils étaient, ces espaces, beaucoup plus des relations que des choses. Et le problème, c'est aujourd'hui, je crois, le bon usage des frontières, si l'on ose dire. Hein. Se murer ne me paraît jamais une bonne solution, et surtout, elle n'est pas très efficace, cette solution. Hein. Mais toutes les frontières ne sont pas des murs qui se rêvent infranchissables. Elles sont, je crois, la marque de l'autre. Je n'entends pas forcément vivre comme l'autre, mais si j'entends m'inspirer de ses valeurs, de sa façon de les vivre, eh bien, je ne voudrais finalement à aucun prix lui imposer les miennes. Cela implique une sorte de respect réciproque que l'on peut appeler frontière. Hein, et le mur, c'est l'inverse, c'est la frontière comme haine, d'une certaine façon.
Paul Mathias.
Méfiance.
Le respect réciproque et puis l'apprentissage réciproque, si je puis dire.
Oui, parce qu'il y a une belle phrase dans ce numéro de cité, civiliser les frontières plutôt que les supprimer.
Voilà, civiliser les frontières, c'est véritablement aller à la rencontre de l'autre, mais à tous égards, je veux dire par là, non pas simplement sur un plan moral, mais sur le plan de la connaissance aussi, ou du loisir, du plaisir.
Eh bien, Paul Mathias, Jean-Pierre Clairaut, merci. Merci aussi par votre entremise à tous les chercheurs qui ont contribué à la réalisation de ce passionnant numéro 31 de la revue Cité. Et merci en particulier à son directeur, Yves-Charles Zarca, professeur de philosophie politique à l'université de Paris 5, René Descartes. Alors, je rappelle le titre du dossier constitué dans ce numéro 31, Mur et frontières, de la chute du mur de Berlin au mur du 21e siècle. Cité est édité par les presses universitaires de France. Je vous en rappelle les coordonnées, 6 avenue Reille, 75 014 Paris, avec une adresse internet, cité au pluriel, cité@puf.com. Pour plus de renseignements, vous nous écrivez, notre adresse, id@rfi.fr. Ce numéro d'idée a été mis en onde par Thomas Ferrière et réalisé par Patricia Lecomte. Bonne lecture, très bonne semaine à tous.